Vous écoutez, on lit pour vous.
La santé publique sonne l'alarme. Un texte de Léa Carrier paru le 20 mars 2026 dans la presse. La santé publique de Montréal s'inquiète de la violence dans les écoles. Après une tendance historique à la baisse, de nouvelles données montrent qu'elle augmente et particulièrement à l'égard des filles. C'est un problème de santé publique, affirme Ariane de Palacio, agente de recherche à la Direction régionale de santé publique de Montréal, qui a publié mercredi le 25 mars 2026 un rapport sur la violence dans les écoles. Les données confirment ce que plusieurs intervenants observent sur le terrain, la violence augmente en milieu scolaire. Et la hausse est particulièrement frappante chez les filles, chez qui la violence n'a cessé d'augmenter depuis 2010-2011, contrairement aux garçons. La proportion d'élèves disant vivre de la violence a atteint 41% en 2022-2023 contre 36% en 2016-2017 à Montréal. Elle dépasse même le taux observé en 2010-2011 alors qu'il s'élevait à 39%. Les données sont tirées de la plus récente édition de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire réalisée par l'Institut de la statistique du Québec. Elles ont été collectées à partir de questionnaires remplis par 5 800 élèves dans une centaine d'écoles secondaires publiques et privées de Montréal. Hausse chez les filles. Les données présentées dans le rapport sont frappantes. La violence en milieu scolaire augmente essentiellement à l'égard des filles. En 2022-2023, 38% d'entre elles ont déclaré vivre de la violence. Il s'agit d'une hausse significative par rapport à la proportion observée en 2010-2011, soit 31%. Par comparaison, la violence envers les garçons a globalement diminué au cours de la même période, malgré une légère hausse dans les dernières années. Finissantes au secondaire, Priscille et Priscilla Hassani ont fondé un comité pour lutter contre le harcèlement scolaire. « La violence à l'école, elle est partout », observent les sœurs jumelles. Des insultes lancées en classe aux menaces faites sur les réseaux sociaux. Mais dernièrement, les filles semblent en faire encore plus les frais. J'ai deux amies et chaque fois que je suis avec elles, les gars arrivent et les frappent. Parfois, ils les poussent dans les casiers, juste comme ça, par plaisir. Lâche Priscille, découragée. À son école, la jeune fille a souvent l'impression que les garçons dictent la loi. Leur dernière tactique d'intimidation, ils choisissent une cible et se donnent rendez-vous devant son casier avant la cloche. Dès que la personne arrive, ils se mettent à la huer, dit-elle. Relations intimes. Le rapport ne contient pas de données sur les auteurs de violences et il est impossible de savoir si les filles subissent plus de violences de la part de garçons, par exemple. Chose certaine, cette hausse n'est pas à sous-estimer, estime Ariane de Palacio. La violence envers les filles, elle est extrêmement préoccupante, nous dit-elle. Elle va de pair avec le renforcement de discours qui contribuent à dégrader les normes sociales et une banalisation de certains types de violences. Récemment, un autre rapport de la santé publique de Montréal faisait état d'une augmentation de la violence chez les jeunes dans leurs relations intimes. En effet, 38% d'entre eux rapportaient avoir subi au moins une forme de violence de la part de leurs partenaires, les filles plus que les garçons. Chez les filles, les voyants sont rouges, un petit peu partout, observe Ariane de Palacio. Plusieurs facteurs en cause. Selon le rapport, les insultes, les violences physiques et les menaces constituent les formes les plus courantes de violence dans les écoles. Les filles souffriraient d'ailleurs davantage de la violence que les garçons. Près de 75% d'entre elles déclarent vivre une détresse psychologique élevée lorsqu'elles en sont victimes, contre 40% des garçons. L'âge joue également un rôle important dans l'expérience de la violence. En effet, les élèves de 2e et 3e secondaire affichent les proportions les plus élevées de victimisation, démontre le rapport. Comment expliquer la hausse de la violence? Sans avoir de réponse précise, Ariane de Palacio avance quelques hypothèses. Il est possible que les jeunes identifient et dénoncent davantage les situations de violence qui tendent à être moins tolérées. Les réseaux sociaux peuvent aussi contribuer au phénomène. En ligne, les jeunes sont exposés à toutes sortes de contenus violents et de discours haineux. Depuis la pandémie, les réseaux sociaux ont pris une importance énorme et on sait qu'ils sont une caisse de résonance pour la violence, illustre Madame de Palacio. Comme un volcan. Président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, André Bernier partage les mêmes inquiétudes. Clairement, il y a une hausse de la violence qui est marquée, dit-il. Au moment de l'entrevue, il participait justement à un colloque en Europe où il côtoyait des professionnels du milieu scolaire de plusieurs pays. Je posais la question à des directions d'école d'ailleurs et ça semble être un phénomène généralisé, raconte-t-il. À l'école, la violence s'observe partout, entre les élèves envers le personnel et les enseignants. Même les parents sont plus agressifs qu'avant. Il faut trouver des solutions le plus vite possible, soutient M. Bernier. C'est tout le monde qui n'est pas bien là-dedans. Le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, Francis Côté, montre du doigt les écrans. Les écrans font que les enfants ont de la difficulté à socialiser, explique-t-il. Ils ont de la difficulté à contrôler leur frustration, à résoudre des conflits. On gère des enfants qui n'ont pas la même maturité qu'auparavant, observe-t-il. Il plaide pour qu'on s'attaque à la racine du problème. La violence dans les écoles, c'est un volcan. La bataille, c'est l'éruption, mais le gros problème, c'est la lave, c'est l'anxiété, les pensées suicidaires, le temps d'écran qui fait que les jeunes ne vont pas bien. C'était « La santé publique sonne l'alarme », un texte de Léa Carrier paru le 25 mars 2026 dans La Presse.
De nombreux Canadiens se tournent vers l'IA pour des questions de santé. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 9 février 2026 dans Le Devoir. En matière de santé, seul le quart des Canadiens croient que l'intelligence artificielle, IA, leur fournit des informations exactes. Pourtant, près de 4 personnes sur 10 utilisent tout de même des plateformes comme ChatGPT pour tenter de gérer un problème de santé, révèle un nouveau sondage de l'Association médicale canadienne, AMC. Ce recours à l'IA, malgré la méfiance, s'explique notamment par le manque d'accès aux soins de première ligne au pays, comme les médecins de famille, affirme le docteur Jean-Joseph Condé, porte-parole de l'AMC. Les gens n'ont alors pas le choix de se tourner vers Internet, même s'ils sont conscients que l'information risque de ne pas être fiable. Dans ce contexte, l'AMC a mandaté la firme Abacus Data pour sonder en ligne 5000 Canadiens sur leurs habitudes liées à la santé et à la recherche d'informations sur Internet. L'exercice a été mené entre le 3 et le 13 novembre 2025. Pour ceux qui se tournent vers l'IA afin d'obtenir des informations ou des conseils en santé, la prudence s'impose, rappelle le docteur Charles Duprat, professeur adjoint et responsable des programmes de bioéthique à l'Université de Montréal. Ces outils peuvent générer des hallucinations, prévient-il. Elle peut réunir des concepts qui se retrouvent, par exemple, dans les mêmes pages web, mais qui ne vont pas nécessairement ensemble ou qui n'existent pas concrètement. L'IA peut donc produire des réponses convaincantes, mais qui sont parfois inexactes. Les sources citées ne sont d'ailleurs pas toujours les bonnes, ajoute M. Duprat. Il faudrait vraiment un meilleur système de référencement, affirme-t-il. En l'absence de balises claires, il revient donc à l'internaute de faire le tri. La question de la vie privée soulève aussi des préoccupations. Les internautes qui détaillent leurs symptômes ou leurs antécédents médicaux à une plateforme d'IA doivent savoir que ces données peuvent être utilisées pour rendre les algorithmes plus performants, souligne le professeur. Et d'une compagnie à l'autre, on peut avoir une gestion des données qui est différente. Du potentiel. Malgré ces mises en garde, le recours à l'intelligence artificielle pour s'informer sur la santé pourrait aussi offrir certains avantages si son utilisation est bien encadrée, souligne le professeur. Est-ce qu'à terme, Ça présente une promesse pour désengorger le système de santé pour des gens qui ont le réflexe d'aller à l'urgence pour des affections très bénignes? Demande-t-il. Par ailleurs, dans certains hôpitaux, l'IA est déjà utilisée dans un cadre clinique. Elle peut, entre autres, servir à optimiser l'organisation des soins en prévoyant le nombre de patients attendus aux soins intensifs des mois à l'avance afin de planifier le personnel en conséquence. Il faut reconnaître les avantages de l'IA lorsque son développement et son utilisation sont bien encadrés, souligne M. Duprat. C'était « De nombreux Canadiens se tournent vers l'IA pour des questions de santé », un texte de Florence Morin-Martel, paru le 9 février 2026 dans Le Devoir.
Sans fil canadien en Europe, services Internet et usure des batteries. Un texte d'Alain McKenna, paru le 18 mars 2026 dans la presse. Michel Laplante, un lecteur, demande « Je prévois passer une semaine en Europe avec mon téléphone en utilisant une carte eSIM. Est-il recommandé de mettre en place d'autres mesures pour assurer la sécurité de mes données et de mon appareil ? Votre choix d'une eSIM est judicieux pour le portefeuille, mais n'agit pas comme un bouclier magique. Les réseaux sans fil sont plus sûrs que le Wi-Fi, mais cette puce virtuelle ne protège pas vos données contre les pirates ou le vol physique. La première règle d'or avant le départ est la sauvegarde complète de vos photos et de vos contacts. Si votre appareil glisse dans une fontaine à Rome, vos souvenirs survivront à la noyade. Méfiez-vous des connexions Wi-Fi gratuites. Les aéroports et les cafés touristiques sont des terrains de chasse très populaires pour les voleurs. Si vous devez consulter vos soldes bancaires, coupez le Wi-Fi et passez par le réseau cellulaire de votre eSIM. Le chiffrement des antennes 5G est infiniment plus robuste qu'un réseau public ouvert à tous les vents. Activez la fonction de localisation à distance et si votre téléphone le propose, activez la détection avancée de vol du téléphone. Dans certains pays, Brésil et Royaume-Uni notamment, les voleurs vous épient sur les trottoirs et vont tenter de prendre votre sans-fil directement dans vos mains une fois que vous l'avez déverrouillé. Traitez votre téléphone avec la même prudence que votre passeport. Claude Nolin, un lecteur, demande « J'ai l'intention de changer de fournisseur Internet. Le hic, c'est que tous mes comptes sont avec mon fournisseur actuel. Dois-je changer tous mes comptes ? C'est le piège classique des fournisseurs de services Internet. Ils vous offrent une adresse courriel gratuite et vous passent les menottes. Lier toute votre vie numérique à une seule adresse équivaut à vous tatouer le nom de votre fournisseur sur le bras. Le jour de la séparation, ça fait mal. Vous devrez donc modifier vos comptes. La première action à considérer est de créer une adresse courriel autonome chez Google, Microsoft ou Proton, par exemple. Ce nouveau domicile numérique vous appartiendra, peu importe qui branche le fil dans votre salon. Procédez par ordre de priorité. Modifiez en premier vos accès cruciaux. Institutions financières, l'Agence du revenu du Canada, Hydro-Québec. Vos abonnements comme Netflix ou Spotify viennent ensuite. Pour les courriels promotionnels et les vieux forums, c'est l'occasion de repartir en neuf. Quelques fournisseurs acceptent de maintenir la vieille boîte de réception pour quelques dollars par mois. Cette option temporaire permet de faire la transition en douceur. Voyez cette corvée comme un grand ménage du printemps. Jean-Luc Plante, un lecteur, demande « J'ai un PC de 3 ans dont la batterie perd de sa performance. J'ai fait un test de performance et sa capacité actuelle est à 74% de sa capacité initiale. Est-ce normal ?» La réponse courte est oui, c'est normal. Fâcheux, mais normal. Votre ordinateur subit les dures lois de la chimie et des composants de qualité inférieure typiques des PC très bon marché. Une batterie au lithium ressemble à une paire de chaussures de course. Dès la première utilisation, la semelle s'use un peu. Après 3 ans d'utilisation quotidienne, la perte d'une partie de sa capacité initiale est une usure normale. Les entreprises calculent la durée de vie en cycle de charge, qui correspond à une décharge totale. Après de 300 à 500 cycles, les piles de moindre qualité commencent à montrer des signes prononcés de fatigue. La chaleur aggrave aussi cette dégradation naturelle. Si votre appareil reste branché de façon continue sur un bureau chaud, la pile souffre davantage. La bonne nouvelle est que votre machine a encore de belles années devant elle. Mais vous devrez chercher une prise électrique un peu plus souvent. Le jour où l'autonomie deviendra un obstacle à votre travail, il faudra remplacer la pièce. Une pile neuve coûte une fraction du prix d'un ordinateur neuf. C'était Sans fil canadien en Europe, service internet et usure des batteries. Un texte d'Alain McKenna, paru le 18 mars 2026 dans la presse.
L'avenir entre Pax Americana et Bellum Americanum. En sous-titre, le monde post-américain n'a pas à être anti-américain, mais il peut exister sans les Américains. C'est un texte signé Charles David, qui est professeur de sciences politiques à l'UQAM et fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Son texte est publié dans Le Devoir des 14 et 15 mars 2026. Si on ne peut compter sur les États-Unis et leur leadership, il faut réfléchir à des stratégies de sortie. Le constat est unanime et souvent répété, les États-Unis se désengagent du système international, non parce qu'ils y sont forcés, mais parce qu'ils le veulent, un choix sans précédent en 80 ans. Citation, « Nous sommes dans la situation du leadership zéro, sur laquelle j'ai écrit pendant des années, un trône vacant pour la direction du monde que personne d'autre ne veut ni ne peut combler. » Fin de citation, estime le géopolitologue Ian Bremmer, qui conclut, citation, « Préparez-vous à une forte turbulence. » Fin de citation. Les États-Unis ne sont plus, désormais, la superpuissance fiable. Autre constat, l'ordre libéral international et l'Occident, qui lui a longtemps été associé, n'existent plus. Citation, l'exceptionnalisme est révolu, car la politique étrangère des États-Unis n'a plus pour mission de promouvoir les idéaux américains comme elle le faisait depuis longtemps. Fin de citation, écrit Daniel Dresner. Quelles sont les lueurs d'espoir dans ce contexte pour la résistance de pays comme le nôtre? Peut-on construire un monde libéral post-américain? Si le désengagement américain et la Lax Americana est irréversible et s'ils veulent contrer les répercussions d'une Bellum Americana, les pays alliés et partenaires des États-Unis devront renforcer leurs liens tant économiques que militaires et le temps presse. Ils devront s'engager davantage entre eux à défendre la démocratie, à défendre leur territoire, à collaborer sur le plan militaire, à défendre les normes du commerce et leur appartenance à une communauté internationale. Citation, entre la Chine et les États-Unis, les États libéraux devront se protéger contre les deux plus grandes économies de la planète et les deux plus importantes armées du monde. Si l'on ajoute la Russie, les démocraties devront confronter trois grandes puissances, résume le professeur d'études stratégiques Philip O'Brien de l'Université de St. Andrews. L'auteur va jusqu'à prôner, pour certains États, tels la Corée du Sud, le Japon et des pays européens, la possession d'armes nucléaires pour dissuader toute agression contre eux. Une telle perspective aurait été inimaginable il y a quelques années sous le parapluie de leadership américain. D'autres stratégies peuvent être envisagées. Des alliances nouvelles pour promouvoir le commerce, développer et protéger ensemble les chaînes d'approvisionnement de métaux rares. Des alliances renforcées dans le domaine de la défense et de la sécurité entre l'Europe, le Canada et les pays de l'Asie de l'Est. Se rappeler que parfois, la meilleure défense est l'offensive, comme le prônait en son temps Reagan. Par exemple, financer les forces démocratiques, utiliser le levier des marchés obligataires pour forcer Trump à reculer, aider activement l'Ukraine, assurer la survie de Taïwan, celle des institutions internationales, comme une sorte de G6 réduit, soutenir l'Organisation des Nations Unies, créer et rallier des forums d'aide et d'assistance, développer des partenariats multi-alignés, reprendre le flambeau de la puissance douce. Il faut offrir une solution de rechange fiable et durable qui ne soit ni celle des pays autocratiques ni celle des États-Unis. Il faut concevoir une stratégie de survie démocratique, comme le propose le professeur O'Brien. La crise actuelle de la gouvernance des relations internationales offre aux puissances moyennes, telles que le Canada et d'autres, une occasion de rebâtir les fondations d'un multilatéralisme en mesure de contrer l'unilatéralisme des grandes puissances, comme l'a prôné le premier ministre Mark Carney à Davos en janvier 2026. La coopération doit être renforcée, et elle peut l'être, comme notre suggestion que le Canada devienne un partenaire plus étroit de l'Union européenne. Le reste du monde ne doit pas accepter son partage en sphère d'influence, comme le souhaitent Trump, Xi et Poutine. Le monde post-américain n'a pas à être anti-américain, mais il peut exister sans les Américains. Cela prendra du temps et, qui sait, par un effet boomerang, fera réaliser à ceux-ci que les États-Unis étaient bien mieux avant que Trump ne devienne président. Si un retour en arrière n'est pas possible, ce qui fait apparemment consensus, il nous faut alors envisager l'avenir au-delà des États-Unis. Guillemets, survivre à Trump et continuer d'avancer. Fin des guillemets. Ce que nous n'avions jamais imaginé auparavant. C'est là le défi des trois prochaines années trumpiennes. Fin de ce texte de Gérard Bouchard. Fin de ce texte de Gérard Bouchard, titré « L'avenir entre Lex Americana et Bellum Americanum », publié dans Le Devoir du 15 mars 2026.
Un chirurgien à vélo, l'hiver. Un témoignage du docteur Patrice Nau, paru le 10 février 2026 dans la presse. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le témoignage de Jacques Nacouzi, publié récemment dans cette section. Étant chirurgien vasculaire, j'ai été évidemment touché par le vibrant appel de ce citoyen de Montréal pour que nous ayons tous un mode de vie sain comprenant exercice, régime santé et mesures préventives. Utilisant les pistes cyclables pour me rendre à ma clinique de l'île des Sœurs, j'aimerais ajouter mon témoignage en faveur des pistes cyclables qui maintiennent aussi, à mon avis, une certaine santé sociétale à Montréal. Dans le cadre du grand défi Pierre Lavoie, GDPL, 1000 kilomètres auxquels mes frères et moi allons participer avec environ 1250 autres cyclistes du Québec au printemps 2026, je suis retournée récemment dans le quartier de mon enfance. En effet, le GDPL invite chaque groupe de participants à parrainer une école primaire avec un indice de milieu socio-économique, IMSE, élevé, c'est-à-dire indiquant la plus forte défavorisation. Je m'y suis rendue à vélo. J'ai d'abord été impressionnée de constater qu'il y a des pistes cyclables tout autour de l'école. Quelle différence avec la sécurité à vélo qui était complètement nulle il y a 50 ans. C'est grâce au vélo que, enfant et adolescent, j'ai pu progressivement explorer Montréal à partir du nord de la ville. Je me suis rendu au Stade olympique en 1976 à vélo. Waouh! Je me souviens de la première fois où j'ai monté la voie Camillien-Houde à vélo avec mes frères. Une épopée. Et c'est à vélo que je me suis rendu à l'Université de Montréal faire mon cours de médecine, ce qui m'a ouvert tellement de nouveaux horizons. Enfin, plus tard, c'est pendant le tour de l'île de Montréal que j'ai ressenti les bienfaits des kilomètres parcourus depuis mon enfance. Connecté à la ville. Aujourd'hui, c'est en partie grâce aux pistes cyclables que je reste en lien avec la ville de mon enfance. À un feu rouge, dans notre monde connecté aux réseaux sociaux, il est toujours étonnamment facile d'entamer une conversation. On parle de la pluie et du beau temps, et ces temps-ci, du froid extrême. Les cyclistes voyageant l'hiver à Montréal sont les citoyens les plus solidaires des sans-abri qui doivent passer la nuit au froid. À grelotter sur le coin d'une rue à attendre notre feu, on ne peut même pas imaginer d'y passer la nuit. Aussi, j'ai dans mon sac de vélo du Narcan, un antidote aux surdoses, car un matin, le long de la piste du canal de la Chine, j'ai vu des policiers autour du corps d'un malheureux. Lire sur ce sujet ou regarder des tableaux et des statistiques n'a pas le même impact que de le voir. C'est le vélo qui permet cette proximité, créant une conscience citadine de ce qui se passe vraiment. À l'été 2025, à un feu rouge, après avoir dit à un cycliste à côté de moi combien son pain sentait bon, je m'en suis fait offrir. La pauvreté est toujours plus facile à partager que la richesse, et c'est avec cette conversation que j'ai compris l'ampleur de la précarité alimentaire de nombreux citadins, car ce pain transporté à vélo était destiné à une banque alimentaire. Il n'y a pas une statistique ou un reportage qui m'a plus touché que l'engagement de ce Montréalais à faire son bout de chemin pour atténuer la crise. Pouvoir se déplacer à vélo en sécurité dans tous les quartiers de Montréal, dans tous les sens et dans toutes les directions, est une richesse. Mes frères et moi souhaitons donner des vélos aux élèves de l'école primaire de notre enfance, parce que c'est en explorant la ville à vélo que le goût de découvrir davantage a fait naître en nous cette curiosité qui nous a conduits jusqu'à l'université. Mais surtout, parce que les multiples visages de Montréal nous sont généreusement dévoilés dans les pistes cyclables. C'était Un chirurgien à vélo l'hiver, un témoignage du Dr. Patrice Nau, paru le 10 février 2026 dans la presse.